ici, Vermont, dans une siècle à peu près après, donc voilà, Deutéronome, et nous serons dans le chapitre 31. Nous arrivons à la fin des écrits de Moïse. On nous a écrit les cinq premiers livres de la Bible. Et ici, on arrive à la fin de ce que lui a écrit, de ce qui le concerne. Et on arrive également à la fin de sa vie. Israël a traversé le désert, a passé ses 40 ans dans le désert à cause de sa désobéissance. Et maintenant, Dieu est prêt à emmener le peuple dans la terre promise en Canaan. Aaron va mourir aussi, Moïse également, avant cette entrée dans la terre promise à cause de leur désobéissance. Cela, on le voit dans les chapitres qui suivent. Mais avant tout cela, Dieu vient de terminer de donner la loi. Alors, Deutéronome, en fait, c'est une deuxième annonciation de la loi. On avait déjà, Dieu avait déjà parlé à la fois dans l'Exode et dans Lévitique, mais maintenant, une deuxième fois, ceci est écrit. Et nous arrivons au verset 9, et du verset 9 au verset 13, ce sont les versets qui vont nous intéresser ce matin. Alors, permettez-moi de les lire. Deutéronome chapitre 31, verset 9 à 13. Moïse écrivit cette loi. Et il a remis au sacrificateur, fils de Lévi, qui portait l'arche de l'Alliance de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre, tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils t'entendent et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront pas l'entendront et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession. Après avoir passé le Jourdain. Et ici, comme il dit, Moïse, il arrive à la fois à la fin de sa vie et à la fin de son ministère pour Israël. Dieu l'avait établi pour un temps. Donc, il avait pris déjà au désert, lui est apparu dans le buisson ardent, et à ce moment-là, il a confié cette mission de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, ce qu'il a fait par la présence de Dieu. C'est les 10 plaies que Dieu a fait venir sur Égypte. Et puis, Moïse a conduit le peuple pendant toutes ces 40 ans, 40 années dans le désert, une tâche qui n'était pas du tout simple quand on pense à toute la rébellion du peuple, quand on pense au propre péché de Moïse. Et aussi, Aaron, lorsque eux, au lieu de parler au rocher, Moïse a frappé 2 fois, et c'est la raison principale pour laquelle il n'entrera pas en Canaan. Et du coup, Moïse, à travers sa vie, a expérimenté beaucoup, il a beaucoup reçu de Dieu, il a passé ses 40 jours sur le mont Sinaï, il a parlé avec Dieu face à face, il a vu la gloire du Dieu par derrière. Et lorsqu'on pense à tout ce que Moïse a vécu, à tout ce qu'il avait expérimenté, on pourrait se dire, mais de toutes les personnes, c'est lui qui aurait pu se reposer sur ses acquis, sur toutes ses expériences, sur tout ce que lui il a vécu. De toutes les personnes, lui, il aurait pu faire cela. Mais Moïse a compris que quelque chose, à la fois pour lui, mais aussi pour chaque être humain, il y a quelque chose d'important, c'est le rappel. Parce que nous sommes oubliés. Nous oublions, nous avons tendance à nous focaliser tantôt sur une chose et puis passer à autre chose et oublier ce qui est dans le passé, ce que nous aurions dû nous souvenir. Et c'est pour cela que au Seigneur, on y revient. Moïse, bien sûr inspiré par Dieu, mais lui-même, il voit l'importance de cela. Moïse écrivit cette loi. Alors, quelle loi? C'est la loi de Dieu réel. Donc, du chapitre 1 de ce livre, jusque-là, comme j'ai dit, en fait, c'est Moïse qui reprend déjà ce qui a été donné en Exode, en Lévitique, même en Nombre. Et ceci ne se limite pas aux 10 commandements. Donc, on est en Exode 1. Les 10 commandements en font partie. Ces commandements écrits du droit de Dieu, c'est quand même quelque chose de très fort. Mais Moïse écrit toute la loi. Toute cette loi. Et imaginez-vous, à l'époque où tout se faisait par là, donc il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de smartphone, il n'y avait rien de tout cela, non. Tout était par là. Et Moïse va écrire toute cette loi. Et va la remettre aux sacrificateurs, fils de Lévi, parce que c'était leur travail à la fois de garder cette loi, mais aussi de l'enseigner au peuple, comme on va le voir. Et c'est eux qui portaient l'arche de l'Alliance de l'Éternel, tous les anciens d'Israël, tous ceux qui avaient cette responsabilité de veiller sur le peuple. Et c'est là où, au verset 10, Moïse va donner un ordre. Et Moïse va enseigner quelque chose au peuple qui est tellement important pour nous. Parce que nous avons tendance à négliger, à oublier l'importance, l'utilité, la raison d'être de la lecture biblique. Et Moïse va dire non, c'est quelque chose qui est extrêmement important. D'ailleurs, c'est parmi les dernières paroles, les dernières instructions qu'il va donner à Israël. Et pourtant, Israël, on n'a pas laissé tomber cela. On le voit dans la suite d'Israël. Israël n'obéira pas à ce que Moïse dit ici. Par moment, oui, mais en général, non. Et nous avons tendance dans notre vie un peu à minimiser, à oublier, à négliger cet aspect. Et c'est à notre détriment, c'est à notre perte, parce que Satan, bien sûr, notre ennemi, voudrait nous faire laisser tomber la parole de Dieu. Dans un sens, cela ne dérange pas notre ennemi, Satan, que nous lisions la parole, à condition que nous ne suivons pas ce qui est dit dans ces versets. Parce que Satan lui-même, se sert de la parole de Dieu. On le voit à plusieurs reprises. Satan la connaît très bien. Il était présent pour le plus tard de ce qui s'est passé. On lit les prophéties qui sont encore à accomplir. Surtout, Satan aimerait que nous mettions de côté la Bible ou que la Bible n'ait aucun effet dans notre vie. Et Moïse, dirigé par Dieu, écrit ceci pour le peuple et par extension pour nous. Aujourd'hui. Et déjà au verset 10, on voit Moïse leur donna cet ordre tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël en leur présence. Et la première chose que Moïse va communiquer à Israël, et il va leur ordonner de faire, c'est d'avoir à un moment mis en place pour la lecture de la Bible. Ici, c'est tous les 7 ans, au moins, mais aussi on voit à travers d'autres versets que c'était bien plus souvent que cela, que régulièrement cela devait se faire. Mais au moins, tous les 7 ans. Il y avait un moment fixe, et Moïse dit, c'est là où cette parole, ces commandements, toute cette loi, doit être lue. Parce que Moïse savait, si un moment n'était pas fixé, ben, le peuple deviendrait tellement préoccupé avec autre chose, avec la récolte, avec les différents travaux à faire à la maison, avec toutes sortes de choses, en fait, le peuple laisserait de côté la lecture de la loi, la lecture de cette parole qui venait de Dieu. et même sans vraiment le vouloir, pas vraiment de manière intentionnée, mais juste parce que dans mon sens c'est un peu naturel, le peuple se focaliserait sur autre chose s'il n'avait pas en place un moment fixe pour lire et entendre cette loi. Et je dis, voilà, tous les 7 ans, à l'époque de l'année de relâche, liée à la fois à l'année du Sparogne aussi, de ce qu'on appelle l'année de juillet, c'était tous les 7 Sarah, donc tous les 50 ans, ici, il fallait que cette loi soit lue tous les 7 ans, à l'époque de l'année du relâche, la fête des tabernacles, et c'est là où tout le monde, tout Israël est rassemblé, et à ce moment-là, spécifiquement, la loi, la parole qui est venue de Dieu, était lue. Moïse a reconnu cette importance, bien sûr, dirigée par Dieu, et dans notre vie aujourd'hui, bien sûr, nous n'attendons pas 7 ans pour entendre la parole. Là, où vous êtes là, ce matin, vous entendez la parole de Dieu. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous l'avez entendu. Et pendant les semaines avant, en arrière, vous l'avez entendu semaine après semaine. Et c'est quelque chose de voulu de Dieu que, à un moment donné, le peuple de Dieu se rassemble pour écouter sa parole. Et il faut que ce soit un moment fixe. Parce que si nous disions, quand tout le monde a la possibilité, imaginez-vous, si nous nous disions, on va se rassembler quand tout le monde peut être là. À quel moment ça passe? Il faut essayer de trouver un moment où tous ceux qui sont dans l'église puissent venir. Je vous dis qu'on ne se rassemblerait jamais. Parce que tout le monde n'est jamais là, pour diverses raisons, bien sûr. Et du coup, il faut avoir un moment fixe en disant, voilà, on met à part ce temps, et demain, on va écouter, on va entendre, on va, comme on va voir dans les versets qui suivent, on va méditer la parole. Parce que sinon, cela ne se fera jamais. Et on va se laisser influencer, prendre part d'autres choses. Parfois les besoins et les choses légitimes. Mais quel est le plus important? Le plus important, c'est d'entendre, d'écouter la parole de Dieu. Et du coup, Moïse dit, à ce moment spécifiquement, le peuple doit se réunir pour entendre, pour écouter la parole de Dieu. Et il se pose la question dans sa propre vie, est-ce qu'il y a un moment spécifique que nous passons avec la parole? Gloire à Dieu si c'est le dimanche matin. Elle veille que ce soit de manière continuelle. Mais je vous dis, ce n'est pas assez une fois par semaine. Une fois tous les 7 ans, ce n'était pas assez pour Israël. Alors, il fallait que ce soit continuel. Il fallait que ce soit tous les jours. Josué, chapitre 1. Qu'est-ce que Dieu va dire à Josué? Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de toi. Mais tu en parleras quand tu seras en voyage, quand tu seras à la maison. Partout, tu ne t'en détourneras point, ni à droite, ni à gauche. Ce livre de la loi sera, doit être toujours avec toi. Et il ne s'agit pas d'une fois tous les 7 ans, une fois toutes les semaines, mais tous les jours. Et se pose la question, ai-je un moment, tous les jours, que je n'ai pas que je consacre pour Dieu à la lecture de sa parole? Parce que si je ne prends pas ce temps de manière intentionnée de passer du temps avec Dieu dans sa parole, je ne le ferai pas. Malgré toute la bonne volonté que j'ai, malgré tous les efforts, cela n'arrivera pas. Si je ne me fixe pas un moment pour dire, là, c'est mon temps avec le Seigneur dans sa parole, rien n'empêchera cela. Moïse a reconnu le besoin de fixer un moment pour le peuple, pour se rassembler, et nous aussi, à un moment donné, dans notre vie personnelle, pour notre famille, pour notre église, d'avoir ces moments où, de manière intentionnée, nous par son étant dans la parole de Dieu. Mais également, regardez, verset 11, à ce moment donné, qui était rassemblé, ben, tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. Verset 12, tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils entendent. Donc ici, personne n'est exclu. Personne ne pouvait dire, la dernière fois, écoutez, cette fois-ci, je n'en ai pas besoin. Personne ne pouvait dire, c'est pour le reste, mais ce n'est pas pour moi. Je suis exclu. Je m'exemple. Non, Moïse dit, quand tout Israël se rassemblera. Parce que pour la période de l'année, il faut savoir, c'était une époque faite où tout Israël était obligé de venir. Il y avait cette fête-là, il y avait la Pâque, bien sûr. Et c'était des moments où tout Israël, sur l'ordre de Dieu, devait se rassembler. Et bien sûr, ce sera à Jérusalem, nous le savons avec les livres qui suivent. Tout Israël devait se rassembler, par verset 11, dans le lieu qu'il choisira, ça c'est Jérusalem. C'était tout Israël. Et verset 12, sa précision, les hommes, les femmes, même les enfants, l'étranger qui sera dans tes portes. Et c'est catégorie que peut-être nous, j'aurais dit, oh mais c'est pas bien grave. Les enfants, bon, peut-être qu'ils ne comprendront pas. Peut-être que ce sera trop pour eux. Mais en fait, les enfants sont bien plus intelligents que parfois, on le croit. Les enfants, ils tapent très très vite, et vous l'avez certainement fait vous-même, vous qui avez les enfants, ou vous qui avez gardé les enfants, les enfants, très souvent, ils nous surprennent par leur intelligence, parfois leur intelligence pour faire des bêtises, n'est-ce pas? Mais ils nous surprennent très souvent. Et puis, l'étranger, ici, c'est quelqu'un qui n'était pas juif. Par la suite, on va parler de païen. Et le peuple aurait pu se dire, mais ce c'est pour nous, entre guillemets, peuple de Dieu, c'est que pour nous, ceux qui ne sont pas comme nous, on va les exclure. Et je dis, non, ceci est pour tous. On va inclure tout le monde. Tout le monde doit être là, personne n'est exempt. Et voilà pourquoi la pensée de Dieu est bien au-dessus de la nôtre. Parce que nous, peut-être que nous aurions limité ce rassemblement. Peut-être que nous aurions exclu un groupe ou une personne. Nous serions présentés nous-mêmes. Mais Dieu dit non. À un moment fixe, de manière intentionnée, on vient et c'est tout. Présent. Et il insiste, verset 12, et combien de fois dans le livre des œuvres, Lévitique, nombre de Deutéronome, on parle de tout le peuple. C'est pas juste quelques-uns, c'est pas simplement ceux tout simplement qui ont envie, non, c'est tout le peuple. Parce que c'est quelque chose qui est tellement important. Tous devaient entendre. Tous devaient être là parce que nous avons tous tendance à aller sur notre propre chemin. Nous avons tous tendance à faire ce que nous croyons est le meilleur. Et nous avons besoin d'être réglés et corrigés par Dieu. Et du coup, à ce moment-là, c'est tous, pour Israël qui devait être présent, aujourd'hui, c'est tous qui devraient être présents dans la parole que Dieu est annoncée. Et dans notre propre vie, nous avons besoin de prendre ce temps à part. Dans notre propre vie personnelle, dans notre famille, c'est tellement important, personne n'est exempt. Puis, verset 11, à la fin du verset, vous avez constaté que j'ai sauté la dernière phrase, et bien sûr, ce n'était pas une erreur, parce que ceci, Moïse nous montre à ce moment-là qu'est-ce qui devait être lu et comment. Il dit, à la fin de verset 11, tu liras cette loi, donc de nouveau on revient sur cette loi, devant tout Israël en leur présence, fermer le livre et ensuite partir comme si de rien n'était. Et montre que cela doit aller beaucoup plus profond. Que en fait la lecture et l'écoute de cette loi devaient produire un changement. Nous verrons si tu liras cette loi devant tout Israël. Et au moins que quelqu'un te expose la parole de Dieu qui la prêche, ceci m'encourage et me fortifie. Parce que ce ne sont pas mes pensées, mes avis que je proclame, que j'annonce. Non. Je les laisse de côté et j'annonce la parole de Dieu. Et vous les dites, c'est cette loi, cette loi qui vient des dieux, que lui-même il avait reçu directement de Dieu qui devait être annoncé. Et puis verset 12, on voit, afin, dans le but, oui, ils entendent. De mieux écouter et puis ne pas pouvoir entendre, voilà, ça ne sert à rien. Être présent, mais ne pas écouter, ne pas entendre, cela ne sert à rien. Mais ce n'est pas tout. Parce que comme je dis, il faut que cela produise un changement. Afin qu'ils entendent et afin qu'ils les apprennent. J'aime bien ce mot. Ils apprennent parce que apprendre veut dire il y avait un manque de connaissances. Veut dire croissance. Veut dire changement d'attitude. Veut dire correction. Peut-être que je faisais une chose d'une façon, mais maintenant on m'a enseigné, j'ai appris. Peut-être que je pensais d'une certaine manière, mais maintenant, voilà, parce qu'on m'a enseigné, je pense d'une autre façon. Peut-être que je parlais d'une façon, mais maintenant, j'ai changé parce qu'on m'a appris, afin qu'ils apprennent. Un changement est impliqué ici. Afin qu'ils apprennent pourquoi à craindre les gens. Et ceci me frappe, pourquoi? Parce que Moïse est en train de parler au peuple qui avait vu le mont Sinaï embrasé, ils avaient vu la fumée, ils avaient vu la présence de Dieu manifestée par la colonne de fumée, la colonne de feu, qui les avait dirigés pendant les 40 années passées. Et pourtant, il dit, cette loi doit être lue dans le but que le peuple appelle à craindre Dieu. Parce que cette génération avait vu les œuvres de Dieu. C'était les enfants de la première génération qui étaient sortis d'Égypte. Eux, en tant qu'enfants, ils avaient vu tous les miracles de Dieu. Mais leurs enfants, leurs enfants, et les générations qui suivraient, eux, ils n'auraient pas vu toutes ces choses. Et de leur transmettre ce que Dieu a fait, les aiderait, oui, à craindre Dieu, à avoir cette crainte respectueuse. Lorsque le peuple était devant le mont Sinaï, bah, ils étaient dans la crainte, littéralement dans l'effroi. Ils ne voulaient pas que Dieu leur parle. C'était trop pour eux. Ils étaient vraiment, oui, cet effroi. Bien plus que la peur. Ils avaient une crainte de Dieu, parce que Dieu a manifesté sa puissance. Et Moïse a écrit tout cela. Pas simplement pour ces générations-là, mais pour les générations qui suivraient. Et par extension pour nous. Parce que nous n'avons pas vu le mont Sinaï, les pires jours en parle. Nous ne nous sommes pas approchés de cette montagne embrasée, cette montagne où Dieu s'est révélé et a manifesté sa puissance. Et pourtant, nous avons cela dans la parole de Dieu. Et cela doit nous pousser à craindre l'Éternel, parce que notre tendance naturelle n'est pas de craindre Dieu, n'est pas d'avoir cette crainte respectueuse de Dieu. Sinon, on n'aurait pas besoin de l'apprendre. Mais puisqu'il nous faut l'apprendre, cela veut dire changement dans notre vie. Plus de crainte de Dieu. Puis, il dit qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Cette deuxième partie est tellement importante. Parce qu'il ne suffisait des temps pour que le peuple entende ces paroles, qu'il dise quelle belle parole, on repart chez nous, mais tout continue comme s'il n'avait jamais entendu ces paroles. Non, ce n'est pas du tout le but. Dieu dit à Moïse, il faut que cette parole soit lue, pour que tout le monde l'entende, pour qu'on apprenne à craindre l'Éternel, et pour qu'on apprenne à observer, donc, vous pouvez mettre à côté obéir, donc, obéir à Dieu, ce qui implique une mise en pratique de toutes les paroles de cette loi. Une mise en pratique, encore une fois, un changement. Peut-être entre la dernière fois que le peuple avait entendu ces paroles et le jour là où ils entendaient, peut-être qu'ils s'étaient écartés des commandements de Dieu, de cette loi. Et que maintenant, en entendant, ils se sont dit, ah oui, d'accord, je dois corriger. Je suis parti sur une mauvaise voie, mais maintenant je vois l'erreur, je dois revenir. D'observer, c'est-à-dire obéir et mettre en pratique. Là, cette petite phrase, toutes les paroles de cette loi. Cette petite précision qui exclut tout choix de votre part, en ce sens que je n'ai pas du tout le choix ce que je vais obéir ou pas. Je ne peux pas dire je vais obéir à telle loi de Dieu, mais cette loi-là, elle ne me convient pas trop, donc voilà, je ne vais pas obéir. Moi, je crois mieux. Savoir, je crois savoir mieux que Dieu ce que je dois faire, ce que je peux faire, ce que je veux faire, et du coup, je n'obéirai pas à telle loi. Ou peut-être que je n'obéirai pas complètement, mais Moïse dit à observer, à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Israël n'avait pas le droit de dire, mais cette loi, elle semble ridicule. Quand vous prenez le livre de l'Éthique, je ne sais pas si vous avez fait l'impression, mais quand on lit ces mots, on se dit, mais c'est quand même assez ridicule. Surtout pour nous, occidentaux, 21e siècle, les lois sur les vêtements, les lois sur le lèpre dans la maison. Je ne sais pas si vous avez réfléchi sur quelques-unes de ces lois. Parfois, la maison était détruite, parfois la maison n'était pas. Toutes ces choses, on se dit, mais non, quand même pas, il faut obéir là. Et bien, elle n'avait pas le droit de dire ce qui me semble ridicule, je ne vois pas l'importance, je ne vois pas vraiment, je ne comprends pas, du coup, je ne verrai pas. Non, non, Israël n'avait pas du tout le droit de dire cela. Dieu dit, mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et c'est pareil pour nous aujourd'hui. Parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu demande certaines choses. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons obéir à tel ou tel commandement de Dieu. Soit cela ne semble pas possible, cela ne semble pas s'appliquer à notre vie, cela ne nous convient pas. Et pourtant, Dieu nous le révèle. Et à ce moment-là, nous sommes devant un choix. L'obéissance de la désobéissance. Et ce que Dieu veut, c'est l'obéissance. Il ne nous donne pas la possibilité de dire j'obéirai dans ce domaine-là, à ce commandement, mais je n'obéirai pas. Non, Dieu s'attend à une obéissance complète. Et comment allons-nous savoir quels sont les commandements de Dieu, ce qu'il nous faut mettre en pratique, ce qu'il faut changer dans notre vie, si nous ne passons pas du temps dans la parole de Dieu? Pour l'entendre, pour l'écouter, pour la lire et aussi pour la méditer. Je ne pouvais pas m'empêcher, en lisant et en méditant ces versets, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au psaume 1. Heureux cet homme qui va méditer jour et nuit les paroles de ce livre, c'est-à-dire la parole de Dieu. Heureux cet homme qui médite, cet homme ou cette femme, qui médite jour et nuit. Et toutes les paroles de cette loi. Donc, à un moment fixe, tout le monde vient ensemble, sans exception, pour entendre toute cette loi pour que cela produise un changement en nous. chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que j'aime ceci? Et leurs enfants, Dieu pense aux générations futures, leurs enfants, qui ne la connaîtront pas, ils se doutent très bien que ses parents, pour telle ou telle raison, ne transmettent pas ce qu'eux, ils ont reçu à leurs enfants. Peut-être. Je dis, ben, ces enfants ne la connaîtront pas. Par contre, ils vont l'entendre. Et c'est là où ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. Bon, bien sûr, cela s'exclut en ayant la responsabilité parentale d'enseigner la parole à leurs enfants. Les parents ont cette obligation de la part de Dieu d'instruire leurs enfants dans la parole de Dieu. Mais dans le cas où ils ne le feraient pas, ou peut-être ne le feraient pas bien, que les enfants manquent de connaissance dans la parole, quand le peuple de Dieu se rassemble pour écouter la parole de Dieu, ces enfants qui ne la connaissent pas vont pouvoir apprendre et vont pouvoir grandir. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment même. On va, à Hubert, enseigner les enfants. Et ces enfants, bon, la plupart, sinon la totalité, sont bien instruits, leurs parents les enseignent. Et ils ont reçu cet enseignement ici dans l'église depuis pas mal de temps, certains depuis qu'ils sont nés. Et pour Dieu, c'est comme cela que ça va se passer. Parce que les parents qui enseignent la parole, le peuple de Dieu qui se rassemble pour entendre, écouter cette parole, même les enfants peuvent et doivent bénéficier de cela. Et ainsi, la parole de Dieu est perpétuée. Et nous voyons que Dieu ne se focalise pas simplement sur la génération actuelle d'Israël qui était en vue ici. Cette génération qui avait vu leurs parents, comme Dieu dit, tomber dans le désert à cause de leur désobéissance. Mais aussi, il voit bien dans le futur les générations qui risquaient d'oublier, qui risquaient de manquer de connaissance de Dieu et de ses œuvres. Et il dit, voilà, la parole de Dieu va leur rappeler, leur sera utile. Et leurs enfants, leurs petits-enfants, toutes ces générations futures, et on peut dire jusqu'à nous, vont pouvoir bénéficier de cette parole qui est lue, qui est entendue, et surtout qui est mise en pratique. Et lorsqu'on voit, à la fin du verset 13, c'est cette dernière phrase, et parce qu'on connaît l'histoire, on a tendance un peu à soit minimiser ou ne pas vraiment faire attention. Dieu va dire, bien sûr, tout le temps que vous vivrez dans le pays dont vous prendrez possession après avoir passé le Jourdain. C'est une promesse de Dieu. Dieu, les années auparavant, avait promis de donner ce pays à Israël. Et maintenant, cela est sur le point de s'accomplir. Et Dieu, dans quelques mots, affirme sa promesse envers Israël. Et nous voyons dans les chapitres, et même les livres qui suivent, que Dieu va accomplir sa promesse. C'est quelque chose de formidable, parce que, au moins pendant un certain temps, Israël aura mis en pratique ceci. Israël va se rassembler pour écouter la parole. Sous Josué, bien sûr, par la suite sous David, avec le moment, avec Néhémie, au retour de Babylone, le peuple va se rassembler. Et à ce moment-là, Dieu va venir. Dieu va rester fidèle à ses promesses. Et quel encouragement pour nous de savoir que lorsque nous obéissons, à Dieu, Dieu sera fidèle à ses promesses. Mais à Dieu avec Israël. Et pour nous, lorsque nous nous rassemblons entre nous, autour de la parole de Dieu, pour l'écouter, dans le but d'apprendre et la mettre en pratique, à ce moment-là, Dieu va venir. Quel message glorieux! Quelle récompense à la gloire de Dieu pour nous! de bénéficier de la fidélité et des promesses de Dieu. C'est quelque chose qui est vraiment formidable. La question, c'est est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous avons ce moment que nous mettons à part avec Dieu et sa parole? Est-ce que nous nous rassemblons tous pour écouter cette parole, pour écouter Dieu? Et est-ce que nous transmettons cela aux générations futures? Dieu, avec les dernières instructions qu'il donne à travers Moïse, voulait transmettre cet enseignement à son peuple. C'était quelque chose de tellement important. Et aujourd'hui, avec le 21e siècle, nous ne pouvons pas nous passer de cet enseignement. Nous avons besoin de ce rappel. Parce qu'il est si facile d'oublier, il est si facile de glisser dans des habitudes autre que ce que je veux. Et Dieu dévoile ici ce qu'il attend de nous. Parce que ce que Dieu dit ici est confirmé à travers toute sa parole. Jusque dans le Nouveau Testament, Dieu veut que son peuple se rassemble dans le but d'entendre sa parole et d'être transformé par la grâce de Dieu. Maintenant, nous faisons-nous. C'est la grande question. Est-ce que nous obéissons à Dieu dans ce domaine? Nous voyons ce que Dieu attend de nous. Et c'est un choix personnel de chacun de dire oui. Je vois l'importance, c'est quelque chose que je veux faire, et par la grâce de Dieu, je le ferai. Nous avons un choix à faire. Oui ou non? Quelqu'un l'a dit, il y a quelques années, il n'y a que deux choix devant nous. Faire Dieu, faire un soi. Mais Dieu nous révèle ici que sa parole est quelque chose de tellement important. Et surtout, ce rassemblement pour l'entendre, pour l'écouter. Il le veut, c'est sa volonté. Une question de résistance maintenant. Le serons-nous ou pas? Vous avez pu le qu'on puisse prendre la bonne décision devant Dieu chacun pour servir. Notre grand Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes. Merci de nous donner cette lampe qui nous éclaire dans les ténèbres. Merci de ne pas nous avoir laissé à nous-mêmes pour que nous trouvions notre propre chemin. Et tu t'es réveillé, Seigneur, et que tu nous aides à faire le choix qui te plaît. Le choix qui est juste devant toi, que nous ne restions pas indifférents face à ta parole, mais au contraire, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que nous puissions nous changer afin que nous soyons conformes à Jésus-Christ, afin que nous vivions une vie qui est agréable, une vie d'obéissance envers toi, et Seigneur, que d'autres soient stimulés. Par notre obéissance, à te suivre davantage. Et Seigneur, que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent pour cela. En ton nom, nous prions.